Face à l'info sur la première.
Le 90 minutes face à l'info.
Avec un face à l'info consacré ce soir donc à la sécurité du rail belge, Eddy Kakelberg. Ce soir, en fait, et curieusement, c'est un incident survenu ce matin entre Assès et Courrières qui a été suivi et analysé réellement en direct lors d'un séminaire qui réunissait tous les acteurs du rail. Un séminaire organisé par le Service public fédéral mobilité et transport. L'objectif étant, Eddy, de créer une culture commune en matière de sécurité.
Eh bien, effectivement, donc ce soir, nous sommes ici en extérieur, au siège du SPF, le service public fédéral qui est en charge de la mobilité et des transports, parce qu'il y a une série de réflexions qui se mettent en place sur la sécurité en général dans les transports, mais bon, le rail en particulier a raison évidemment de toute une série de choses comme Buzzingen et autres sur lesquelles nous reviendrons. Nous avons l'occasion en exclusivité d'interroger la présidente du conseil d'administration de ce SPF, Carole Kuhn, à l'initiative de ces journées de réflexion avec deux acteurs que nous connaissons bien, le professeur Patrick Lagadec qui nous vient de Polytech en France, vous le savez, mais qui progressivement fait marcher donc ces idées de prévention et de questionnement du chaos, et puis Marc Lerche que nous retrouvons également souvent dans ces disciplines qui touchent à l'urgence. Avec eux, nous allons ce soir tenter donc de voir ce qu'ils ont pu engranger au cours de cette journée. Alors merci d'être face à l'info, Madame Kuhn, bonsoir, merci de nous accueillir. L'actualité récente ne vous a pas ménagé globalement dans ce secteur. On va peut-être d'abord essayer de situer, si vous le voulez bien, le SPF Transport et Mobilité par rapport à un certain nombre d'entreprises publiques comme les SNCB, serais-je tenté de dire, Infrabel et les autres, mais vous en gérez d'autres comme les ports, les voies fluviales. Vous êtes véritablement à la fois un nœud d'intermodalité de transport, mais en quoi êtes-vous responsable, je dirais, de ces secteurs ?
Alors très concrètement, par rapport au secteur ferroviaire, je propose de se concentrer sur celui-là. Nous assistons la ministre des entreprises publiques dans le cadre de la préparation des contrats de gestion et dans le cadre du suivi de ces contrats. C'est une première grande mission. Et puis surtout, nous abritons les organes de sécurité créés par le droit européen dans la foulée de la libéralisation du secteur, l'Autorité nationale de sécurité et l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires qui est chargé d'ouvrir des enquêtes sur les accidents ferroviaires, certainement, parfois sur les incidents, et d'en chercher les causes profondes, là où les causes profondes, afin d'éviter que ce genre d'incident ou d'accident ne se reproduise.
Buzzingen, le nom a été lâché, il y en a eu d'autres avant, des travaux parlementaires qui pointent à un certain moment, je l'ai dit, dans le chef d'entreprise, peut-être, ou entre ces entreprises elles-mêmes, un manque de coordination ou un manque de culture générale du réflexe de sécurité, de safety. J'imagine que ça a nourri votre volonté de mettre au point, avec ces messieurs qui s'en exprimeront également, ce programme. C'est un programme qui n'est pas le programme d'une journée, parce qu'il pourrait être à ce moment-là non seulement cosmétique, mais peut-être alibi.
C'est effectivement quelque chose qui nous a interpellés et qui nous interpelle depuis un certain temps. D'abord parce que le nombre d'acteurs s'est multiplié fortement. Nous venons d'une situation où la SNCB concentrait tous les rôles, alors que nous avons aujourd'hui une vingtaine d'acteurs différents. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres au niveau européen et au niveau belge. Il y a différentes entreprises ferroviaires qui ont accès au réseau d'Infrabel. Donc ça nous fait une vingtaine d'acteurs différents qui se répartissent les rôles qui étaient jadis concentrés au sein de la SNCB. Donc ça nécessite de recréer de nouvelles relations interpersonnelles entre ces organes, entre les personnes qui les composent. Et je pense que ça n'a peut-être pas été dit comme ça, mais lorsque la commission parlementaire parle de plateforme, de concertation, de safety plateforme, de coordination, je pense que c'est à ça qu'elle fait allusion, que c'est cette idée de recréer des liens entre tous les acteurs qui forment aujourd'hui la communauté ferroviaire. Et il faut partir de la culture de sécurité qui existe déjà, car il y a déjà une culture de sécurité auprès de ces acteurs, mais il faut la consolider et créer une culture commune à la communauté ferroviaire.
Professeur Patrick Lagadec, bonsoir.
Bonsoir.
On a l'habitude, c'est depuis quelque temps maintenant, de vous retrouver. À chaque fois qu'une catastrophe se profile ou livre des conclusions, j'ai l'habitude de faire appel à vos lumières pour reprendre conscience. Ça allait de la grippe à H1N1 de manière récente jusqu'au Japon, devant faire face à des catastrophes ou Buzzingen. On vous avait également contacté à ce moment-là. Vous avez l'habitude de nous dire qu'il faut s'habituer au chaos. Il faut travailler à partir du chaos et ne pas essayer à tout prix de l'empêcher par une espèce de prévention 100%. Or, il y a quelque chose d'apparemment un peu contradictoire, évidemment, lorsque des commissions parlementaires concluent qu'il faudrait que tout le monde se prépare à 100% et que vous nous dites il n'y aura pas de modèle qui couvrira la réalité.
Oui, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que nous sommes en pleine mutation. On avait un monde dans lequel chacun avait à faire son job et avait les bonnes réponses pour les quelques questions qui s'étaient posées. Et comme l'a dit Mme Kuhn, on se retrouve avec des questions nouvelles, des acteurs totalement nouveaux. Comment on fait pour non seulement conserver une culture de sécurité et des capacités de prévention des risques, parce qu'on n'est pas là que pour les catastrophes, on est là pour prévenir ces catastrophes. Comment on fait pour consolider l'acquis, mais dans des terrains qui mutent aujourd'hui très très fortement. Et là, il y a des choses qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement des réponses, il faut aussi avoir des capacités de questionnement. Au lieu d'avoir uniquement des ordres et puis des clarifications réglementaires, avoir la capacité à développer de la confiance entre nous, être capable de se parler avant qu'on ait des événements graves, et être capable d'avoir ces intelligences nouvelles qu'il nous faut aujourd'hui et qui sortent des petits casiers qu'on avait avant, au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc, un peu l'idée d'initiative aujourd'hui, et on l'a déjà fait à Washington, mais on ne l'avait pas trop fait en Europe, c'est de prendre toute une communauté avec tous les métiers et les personnes qui viennent passer une journée pour apprendre à mieux s'écouter sur des questions pour lesquelles on n'a pas déjà toutes les réponses et pour pouvoir inventer ensemble d'une manière positive, cela donnant lieu après à une capacité de prévention du genre « Tiens, vous n'avez pas vu ça » et l'information peut circuler beaucoup plus vite, donc éviter les catastrophes. Et si par malheur on avait une situation un peu compliquée, qui peut venir avec un virus ou autre chose. Là, on est capable de rattraper beaucoup plus rapidement les situations, de voir éventuellement qu'on fait une erreur et de les rattraper, ou d'aller vraiment sur des pistes qui sont beaucoup plus positives. Et c'est cet humus, ce terrain de confiance qu'il faut développer aujourd'hui. Et c'est cette initiative d'aujourd'hui qui me passionnait, parce qu'on prend initiative. Il y a eu tout le temps des constats. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur le temps des initiatives. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. Et je pense que j'ai senti tout au long de la journée des gens passionnés parce qu'on osait aller sur ce terrain-là. Et on leur demande d'être intelligents ensemble, et ça, ils applaudissent, et c'est très, très intéressant.
Marc Lerch, bonsoir. Lorsque l'on vous retrouve, vous, que ce soit au moment où le 11 septembre nous questionne tous, que ce soit au moment où Coca-Cola se pose des questions chez nous parce que des canettes semblent bizarres et que l'on ne solutionne pas les choses en urgence, ou pour d'autres événements, et je ressonge à Buzzingen également, vous nous expliquez à chaque fois qu'il faut du sang-froid, d'abord, il faut apprendre à communiquer ensuite, et il faut en quelque sorte, parce que c'est aussi vous qui avez établi en son temps le contact entre nous et le professeur Lagadec, que vous vous étiez nourri de l'idée qu'il ne fallait pas à tout prix faire rentrer la réalité dans le modèle, et que ce n'était pas le modèle qui primait, mais une capacité d'analyse, somme toute, sur le terrain qu'il fallait avoir.
Et surtout aussi une capacité de confiance. On ne fait rien sans la confiance. Il faut dire la vérité, il faut être confiant entre les intervenants, entre les organismes, entre les entreprises. Et cette confiance, ça se construit. Nous vivons dans un monde où la navigation partant tempête est devenue la règle et les eaux tranquilles sont l'exception. Alors les dirigeants de haut niveau ont vraiment tous intérêt à prendre régulièrement le temps de se mettre ensemble, sortir le nez du guidon et se mettre ensemble pour réfléchir. Ça crée de la confiance entre eux, ça crée aussi de la confiance vis-à-vis des personnes qu'ils dirigent ou qu'ils sont supposés diriger. Et l'existence de cette confiance est l'apanage des préventions de crise et des gestions de crise réussies.
On y reviendra dans un instant, mais il est vrai, Mme Kuhn, qu'il y a comme une attente paradoxale, y compris dans l'autorité politique, et alors que dire du public, qui attend de vous à la fois donc cette capacité de prévention, cette capacité de gestion de crise le cas échéant, et puis aussi, le cas échéant, d'enquête a posteriori sur les conséquences et les conclusions à tirer, ce qui fait d'ailleurs de vous à la fois l'observateur et l'observé.
Oui et non, parce que les compétences sont exercées par des entités indépendantes l'une de l'autre. Et c'est précisément ça la difficulté, c'est que les entités sont indépendantes, mais qu'elles doivent quand même collaborer, s'échanger l'information. Et c'est ce nouveau type de relation qu'il faut construire, qu'il faut créer ensemble, parce que personne ne l'a créé avant nous. Et nous avons aujourd'hui appris, je pense, à être plus créatifs. Nous avons passé une journée ensemble à être plus créatifs ensemble. Et ça, c'est une capacité qu'il est très précieux de développer, encore beaucoup plus que les connaissances techniques.
On entendait effectivement la notion de confiance. Hein. Il faut de la confiance entre les acteurs. Est-ce que c'est facile, ça, d'établir, vous allez me dire non d'office, mais je veux dire, comment faire en sorte, on va la poser autrement cette question, pour que la confiance règne entre, allez, on va être honnête, entre un subalterne et sa hiérarchie, ou entre un agent de terrain et le conducteur d'une machine, entre l'utilisateur qui était en même temps très prescripteur, je dirais, et les services ou les autorités de service. J'imagine que la vigilance que le professeur Lagadec évoquait tout à l'heure, ces messages qui doivent pouvoir remonter, que l'on doit pouvoir entendre, il faut pouvoir lisser tout ça. Qui a le droit à la parole, somme toute ?
Je pense que tout le monde a le droit à la parole, mais qu'il faut effectivement organiser un peu les choses pour que cette prise de parole puisse être fructueuse. Mais je crois qu'on a démontré aujourd'hui qu'il y avait un réel besoin de prise de parole, d'être entendu, ce qui confirme le besoin exprimé par la commission parlementaire qui parlait de coordination. Donc on confirme les besoins et je pense qu'aujourd'hui on démontre que beaucoup autour de la table, pour ne pas dire tous, ont utilisé un vocabulaire extrêmement positif, générateur de confiance. Il y a eu beaucoup de mots comme dialogue, solidarité, communauté ferroviaire, échange d'expérience, retour d'expérience. Il y a eu un débat sur les sanctions. Donc il y a eu des personnes dans la salle qui avaient des thèses différentes. Et certaines qui disaient il ne faut surtout pas de sanctions. Il faut au contraire que les subalternes puissent s'exprimer très librement vis-à-vis de leur chef pour faire circuler l'information. Donc s'il doit y avoir coordination, comme le souhaite la commission parlementaire, elle doit être menée à bien par un organe qui est à même de développer cette confiance entre les partenaires.
Vous parlez de communauté ferroviaire, ça veut bien dire ce que cela veut dire, parce qu'une communauté c'est un ensemble d'acteurs, mais est-ce qu'il y a, je dirais, un statut commun, un esprit commun, si l'on fait référence ne fût-ce qu'à une communauté comme la communauté européenne devenue l'Union, c'est pas parce qu'on est passé de la notion de communauté à l'Union qu'on a trouvé des idées communes, que l'on a développé des stratégies commune et une capacité de réaction commune. On voit très bien que chaque capitale tire le torchon de son côté au-delà du discours. Alors est-ce qu'au-delà du discours sur la communauté ferroviaire, il y aura un esprit de communauté ferroviaire ?
Je pense qu'il est à créer, comme on a créé l'Union européenne, pas à pas, comme l'Union européenne crée des politiques communes, pas à pas. Et c'est ce qu'on a, je pense, initié aujourd'hui.
Marc Lerch ?
Je crois que l'intérêt d'une rencontre comme aujourd'hui, c'est d'avoir créé un lieu, je vais presque dire en terrain neutre, parce qu'il y a aussi tous les aspects politiques qui entourent la manière dont ces problèmes sont gérés en Belgique et le fractionnement des lieux de décision, de pouvoir, de surveillance. Et on a créé un lieu où les professionnels de la sécurité du rail, en confiance, ont pu partager leurs connaissances, leur retour d'expérience, leur vision stratégique, mais je dirais aussi et surtout leurs questionnements, leurs doutes, leurs interrogations, leurs intuitions. Et ça, c'est très important d'avoir un lieu neutre où on peut faire ce genre de choses.
Oui, professeur Lagadec, c'est vrai que l'idée qu'une hiérarchie, qu'une responsabilité puisse se questionner publiquement, je veux dire, puisse exprimer son doute, dire il y a des choses à re-questionner, c'est somme toute ça aussi assez neuf. On a l'habitude de se dire qu'un chef doit avoir la réponse, qu'une hiérarchie a le schéma et qu'il n'y a pas de doute.
Oui, on a souvent dans le même ordre d'idée cette réflexion. N'allez jamais voir votre supérieur avec une question si vous n'avez pas de réponse à lui proposer déjà. Je crois que dans un monde extrêmement complexe, fluide, volatile, etc., quelque part, le message du supérieur, c'est si vous avez une question, venez, parce que moi, j'en ai déjà beaucoup. On pourra partager ensemble et on va essayer de trouver les meilleures réponses ensemble. Ce qui fait que ça invite beaucoup plus à partager ça. Si on ne le fait pas, et c'est pour ça l'intérêt d'une journée comme celle-ci, si on ne le fait pas, les barrières dont vous parliez entre les organisations, ça devient des lignes maginot mais énormes et il n'est plus question de parler. Alors pour contrer cela, on crée une autre structure chargée de la coordination, on fait des usines à gaz dans tous les sens, le temps de l'alimenter, on est déjà à la catastrophe, on n'a pas fait de la prévention. Et donc vraiment prendre les choses à la base sur ben, s'il y a une question, on va s'en parler. Et le fait d'en avoir parlé 5 minutes avant permet de gagner 5 jours pendant. Et d'éviter beaucoup de problèmes. Et c'est cette fluidité, beaucoup plus biologique que mécanique, qu'il faut développer.
Oui, Madame Kuhn, vous parlez de l'importance de détection des levrots, en quelque sorte. Le petit qui pourrait devenir un gros lièvre ensuite, mais ce petit élément que l'on repère à temps, qu'il faut pouvoir faire remonter. Alors, vous l'avez dit, ça peut être un usager, ça peut être quelqu'un dans le circuit, très proche du terrain ou moins proche. Bref, cette parole doit circuler. Soit, ok, on sait après que le temps de la décision pour la corriger, le budget à obtenir pour le faire, les cheminements qui vous échappent, parce qu'ils sont par ailleurs de vous, sont aussi ceux qui peuvent entraîner le fait que le levrot deviendra un très gros civet de lièvre.
Oui, je ne vais pas pouvoir vous donner réponse à tout, évidemment, puisque nous sommes vus aujourd'hui surtout pour nous questionner et pour trouver des débuts de réponse. Mais je pense qu'il est très important de mettre en place un système de détection, un système structurel de détection des levrots. Parce que si on n'a pas ces levrots, on ne saurait forcément pas leur donner de conséquences, les traiter et éviter qu'ils deviennent des lièvres. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de tout à fait primordial, et de le mettre en place de façon transversale, au sein d'une plateforme où tous les acteurs sont présents.
Lorsque l'on imagine, hein, il y a les nouvelles technologies, il y a les possibilités de concourir assez vite, somme toute à faire entrer de l'information. Il faut encore avoir la volonté et la capacité de la traiter, cette information, et ensuite d'en tirer, je dirais régulièrement, les signaux d'alerte. Le professeur Lagadec disait, si vous avez une question, n'hésitez pas à venir, même sans réponse. Est-ce que c'est un appel que vous lancez, tout en sachant que vous pourriez être noyé aussi, hein, sous le nombre de signaux qui vous arriveraient?
Je ne vais pas lancer cet appel aujourd'hui parce que je vais laisser le soin à ceux qui vont prendre en charge maintenant cette plateforme de concertation de fixer leurs règles. Mais je pense qu'il faut être ambitieux et qu'il faut se jeter à l'eau, sachant qu'on ne maîtrise pas toute l'histoire de A à Z. Il vaut mieux se réserver quelques surprises positives.
Alors, une chose qui vous tient fort à cœur, Patrick Lagadec, c'est l'idée de force de réaction rapide. Hein. Alors ça, c'est quelque chose dont vous nous aviez déjà parlé ici sur antenne. C'est vrai qu'on le comprend bien dans le domaine de la défense. Hein. Alors, par exemple, pour l'instant, on se dit, si l'Europe avait eu une force de réaction rapide, ma foi, elle aurait été à Benghazi avant que Kadhafi n'y soit pratiquement. Mais vous plaidez pour que ce soit dans tous les secteurs que l'on ait cette possibilité de force de réaction rapide. Mais la réaction et la réflexion aussi. Donc c'est pratiquement d'abord une force de réflexion rapide.
Oui, j'insiste beaucoup sur la réflexion parce qu'aujourd'hui, les situations face auxquelles on est confronté échappent au cadrage habituel. Si je me mets dans ceux qui nous écoutent ou en tête en ce moment avec le Japon. Attendez, c'est quoi? C'est du naturel? C'est un tsunami? C'est du nucléaire? C'est la région? C'est le Japon? C'est le monde? C'est ma puce électronique? Est-ce que vous pouvez me clarifier ça? Donc on est face à des sujets qui aujourd'hui sortent d'un cadrage rapide. Et donc la première question à se poser, de quoi s'agit-il? Et puis très rapidement, comme on est vraiment très inquiet face à ce genre de choses, c'est quelles sont les grandes erreurs à éviter? Si vous me dites on est sur un accident nucléaire de niveau 4, mais je n'ai aucune information, attendez, mais peut-être que là, je ne vais pas être très crédible si je dis ça. Donc c'est quoi les pièges à éviter? Troisièmement, c'est quoi mes acteurs? Et tout d'un coup, j'ai des acteurs hyper locaux, nationaux, globaux. Comment je fais avec tout ça? Comment j'invente? Et puis tout d'un coup, on me dit, oui, mais il n'y a que les jeunes qui communiquent parce qu'ils parlent par SMS couramment. Ou bien eux, ils parlent en Twitter extrêmement rapidement et eux, ils auront leur circuit tout de suite. Et puis maintenant, vous avez une ou deux initiatives à me donner. Et pour moi, c'est la quatrième question très, très importante. Il ne s'agit pas de bâtir tout un programme avec toutes les réponses immédiatement, mais si j'avais une ou deux choses à faire tout de suite, là, c'est quoi? Et l'autre jour, j'étais interviewé par des gens qui voulaient savoir, mais tout d'un coup, tout à l'heure, si on évacue Tokyo, ça veut dire quoi? Vous avez quoi à me dire? Et ce que je dis, je ne sais pas, mais si on n'est pas un groupe pour réfléchir là-dessus, vous risquez d'avoir que des effets pervers à la sortie. Donc, en principe, on ne le fait pas. Si jamais ça commence où il faut le faire, voilà au moins les erreurs à éviter, voilà au moins ce qu'on peut faire, et peut-être certainement pas en tout ou rien. Enfin, on peut commencer à réfléchir. Et plus on aura anticipé, moins on fera de bêtises à la sortie. Et on pourra accompagner des forces de réaction rapide, mais une fois qu'on a réfléchi. Et pour nous, la réflexion, ça se fait toujours une fois que c'est fini, en chambre, et en attendant, on applique les procédures habituelles, mais ça ne marche plus.
Il faut aussi, évidemment, avoir l'ambition, lorsque l'on parle par exemple de crash test, hein, c'est un mot pour l'instant qu'on utilise beaucoup, notamment dans le monde bancaire, il faut avoir l'ambition de jouer le jeu correctement. Or, on a vu dans le domaine bancaire, chez nous, que l'on avait fait subir des crash tests dont on nous a dit peu de temps après, oui, mais en fait, vous savez, tous les paramètres n'étaient pas pas réunis pour qu'ils livrent vraiment toutes les réponses. Il y avait une dimension politique à devoir accoucher d'un crash test réussi. Puis quelques mois après, on découvrait qu'en fait, on nous avait un peu dupés. Est-ce que ce n'est pas un des gros pièges, ça aussi, Mme Kuhn? C'est un certain moment de se dire, OK, on va jouer hein, la simulation, le crash test, l'anticipation. Mais pour que le bilan soit pas trop noir, on ne posera que la moitié des bonnes questions, de peur d'avoir trop de mauvaises réponses. Est-ce qu'on va oser aller jusqu'au bout de cette logique, je veux dire? Est-ce qu'on va oser aller lever, de manière anticipée, les failles dans les systèmes, les risques, éventuellement les erreurs de gestion? Parce que ça pointe toujours quand même vers des humains, vers des égos, des affects, et que ce n'est pas facile de mettre tout ça en route, surtout quand ça pointe aussi sur des responsabilités politiques.
Mais je crois qu'il y a une volonté, y compris une volonté politique, de mettre en place ce genre d'organes. Alors jusqu'où on va aller, ça on verra bien, on ira le plus loin possible. Mais il est clair que si on pensait, au niveau des entreprises, au niveau de la communauté ferroviaire ou au niveau politique, si on pensait que l'installation d'un système de freinage automatique serait suffisant pour régler tous les problèmes, on n'irait pas plus loin, on investirait tout là-dedans. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale que le facteur humain gardera toujours toute son importance et que pour influencer le facteur humain, il faut ce genre d'initiative. Moi, je suis confiante, je pense qu'on ira le plus loin possible.
C'est assez novateur, hein, cela dit, comme discours, vous innovez. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de vos collègues qui, en tout cas, le font, ou en tout cas, le font savoir.
Je ne sais pas.
Messieurs, vous qui avez l'habitude de pratiquer ce discours ou d'essayer d'en convaincre, Marc Lerche, vous n'avez pas encore rencontré sur le sol belge 30 responsables qui vous demandent tous d'organiser ce type de simulation ou d'approche.
Ça commence parce qu'on a été trouver des dirigeants de haut niveau en leur disant « mauvaise nouvelle, chers amis, votre crise aura bien lieu ». L'étude de ce domaine depuis les 30 dernières années montre qu'il n'y a pas un État, pas un organisme, pas une multinationale qui n'a pas connu des crises majeures. Les prochaines crises et ruptures systémiques seront encore plus compliquées parce qu'il y aura une multiplicité des acteurs et des pièges. Et il suffit de voir ce qui se passe au Japon aujourd'hui pour imaginer à quel point tout ça est imbriqué. Et personne n'aura la clé tout seul. Donc ce sont ceux qui se seront le mieux préparés ensemble à être surpris, à penser l'impensable, qui seront le mieux armés pour y faire face efficacement.
Oui, professeur Lagadec, c'est vrai que petit à petit, on a le sentiment, mais peut-être à force de vous retrouver aussi, que les idées font leur chemin. Néanmoins, au Japon, ils auraient été bien inspirés quand même de vous entendre hein, depuis le temps. Ils en avaient les moyens.
Il faut avoir l'honnêteté de dire que le terrain reste lourd. C'est-à-dire que moi, j'entends quand même une fois par semaine, ne venez pas inquiéter nos dirigeants. Quand on est dirigeant, on est responsable d'une réalité. Ce sujet, ce n'est pas d'être inquiété ou pas, c'est de la prendre en charge. Et nous avons d'excellents cas. Enfin, je pense au maire de New York qui assiste à une simulation. Il vient lui-même pendant 2 jours, en juillet 2001. Et à la fin, il dit, je prends 2 décisions. La première, c'est qu'on fera une autre simulation, parce que ça ne me convainc pas. Et ce sera le 12 septembre 2001. Et deuxièmement, vous testiez l'évacuation du centre de crise, parce que si jamais ça claque, est-ce qu'on est capable de faire 100? C'est lui qui donne le là. Et il le fait. Bon, donc il y a des lieux où ça se fait, où ça commence à se faire. Mais comme je disais tout à fait au début, l'important, c'est de lancer des initiatives, de montrer que les dirigeants prennent ça en charge et qu'on va de l'avant en faisant confiance aux uns et aux autres. Et c'est pour ça que moi, j'étais passionné par la journée d'aujourd'hui, parce qu'enfin, on prend en charge et on n'est pas là en train de se dire « en gros, ça devrait aller ». Non, 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 on prend en charge. Et c'est ça que l'horizon aujourd'hui a vraiment important.
Ouais, l'ultime question pour aujourd'hui, en tout cas, vous dites être satisfait de ce que vous avez vu à l'œuvre, je dirais, aujourd'hui. Des gens venus d'horizons de cette communauté, d'horizons différents, qui mettent leurs intelligences, leurs questions, leurs questionnements en commun, soit. Qu'est-ce qui manquait pour que ça n'ait pas eu lieu au moment où on les attendait? Qu'est-ce qui s'est révélé aujourd'hui?
En gros, ce genre de questionnement, c'est pas dans nos cultures. On n'a jamais été sélectionné dans nos examens avec une question qui était marquée bah écoutez, la question est inscrite sur la tranche. Vous me donnez une vraie question de cours normale, quoi. Et on a tous été sélectionnés pour ça. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des règlements à l'intérieur d'un petit carré. Et puis après, on fait une coordination pour que tous les règlements... Mais on n'est plus sur ce genre de terrain. Donc il faut apprendre une autre intelligence stratégique et une autre forme de leadership.
Marc Lerche.
Ajouter très brièvement que cette initiative donc, de ce programme Railway Safety on the Frontline a été initié par le SPF Transport en juin dernier, bien avant que la commission parlementaire n'ait rendu ses travaux, et bien avant le Japon ou les problèmes libyens actuels. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été initié, tout à fait d'initiative.
Carole Kuhn, il y aura des suites?
Ah oui, la première suite, si je puis dire, ce sera la première réunion en juin prochain de la plateforme de concertation nationale entre tous les acteurs, qui sera présidée par l'Autorité nationale de sécurité. Je préférerais dire l'Agence nationale de sécurité, ça fait moins autorité. Et ça, je pense que c'est aussi le résultat d'une volonté politique forte et un petit peu le résultat de mes efforts.
Carole Kuhn, merci. Je rappelle que vous présidez donc le conseil d'administration de ce SPF Mobilité et Transport. Patrick Lagadec, merci. Marc Lerche, merci. Merci à tous d'avoir en tout cas donné ce grain à moudre à celles et ceux qui vous ont suivis. Et puis rendez-vous peut-être en juin pour la suite des efforts consentis. Merci, on en restera là pour ce soir.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.